CJSO 101.7 Tête première. Une présentation de Meubles André Beaudieu et de Développement économique Pierre de Sorel. Tête première. L'émission où les débats font avancer les choses. Voici votre chef d'orchestre, Denis Marion, à CJSO. C'est Tête première.
Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition de Tête première. Aujourd'hui, 5 octobre 2023. On est bien content d'être là aujourd'hui parce que l'émission va bien porter son nom, parce que vraiment, on va plonger on va plonger dans une semaine un peu folle politiquement, et ça va être intéressant de voir différents points de vue s'exprimer à ce sujet-là. Mais juste avant, j'aimerais ça prendre une petite minute pour souligner un événement important qui est arrivé cette semaine. C'est les 45 ans du journal Les Deux Rives. Vous savez très bien que les médias, votre station de radio CJSO 101.7 et l'hebdo Les Deux Rives, comme bien des médias à travers le Québec, subissent une pression assez énorme et essaient de remplir évidemment des fonctions absolument essentielles dans les régions où ils rayonnent, ces médias-là. Et donc, c'est quand même intéressant de voir que après 45 ans, on a toujours un hebdomadaire qui nous rapporte les nouvelles, partage les débats, nous informe, permette d'exprimer des opinions, ce que bien humblement je fais à chaque semaine dans une chronique à ce journal aussi, mais aussi renforce, comme CJSO le fait, l'appartenance à la région. Ce sont des médias qui créent des liens entre nous. Alors, je ne peux pas m'empêcher là, de féliciter toute l'équipe pour le travail qui est réalisé. Je salue le directeur Marcel Rainville, le directeur de l'information Jean-Philippe Morin. Et avec nous aujourd'hui, parmi les invités, il y a Alexandre Brouillard, qui est un des journalistes de l'équipe. Alors, tu leur apporteras nos félicitations, Alexandre. Donc, on le disait, grosse semaine politique cette semaine. Rappelez-vous, là, la semaine passée, qu'est-ce qu'il y avait dans l'actualité? Northvolt, McMasterville, les batteries, 3000 emplois. Cette semaine, une partielle lundi dans le comté de Jean Talon à Québec qui fait énormément de bruit, puis on va en parler comme il faut. Puis un premier ministre qui, le lendemain matin, sans trop de subtilité, propose de ressusciter le troisième lien Québec-Lévis qui avait été, selon tout le monde, pas mal enterré au début de l'année 2023. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça bouillonne. Je vais en discuter avec mes invités après la pause. Restez avec nous.
CJSO en concentré.
C'est un show chargé, mais c'est ce que j'aime. Je suis un gars qui a multiples intérêts dans la vie.
Quand tu es l'interviewé, tu ne sais pas du tout dans quelle direction ton vis-à-vis va aller.
C'est
bien plus stressant. Tu n'as pas pu te préparer autant.
Ça nous arrive des fois qu'on parle de d'autres choses, puis qu'on a bien du plaisir et que rien n'est organisé en ce sens.
Les meilleurs moments de toutes nos émissions.
Je t'ai sûrement pas dit « Je suis un excellent
CJSO en concentré. Les samedis, dimanche matin, 7h à CJSO.
La bonne nouvelle économique. Une présentation de la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires.
La campagne d'achat local avec la carte Hello s'étend à l'ensemble des commerces de la MRC de Pierre de Sorel. Elle permettra de générer des investissements totalisant 100 000 en plus de la bonification de 30 000 offerte par Développement économique Pierre de Sorel et par la MRC. Les personnes qui ont participé à la première phase lancée en juin afin de soutenir l'achalandage dans les commerces du centre-ville pendant les travaux peuvent recharger leur carte. Cette campagne comprend également un volet entièrement dédié aux employeurs qui peuvent acheter des cartes à offrir à leurs employés. Les citoyens désirant se procurer une carte doivent visiter le site web de la plateforme interactive Hello. Chaque carte est d'un montant maximum de 100 $ par détenteur. Il n'y a pas de date d'expiration pour l'utiliser, mais la bonification de 30% sera valide jusqu'au 29 février 2024.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
Les de la semaine. Allô, voici notre numéro 1 cette semaine.
Numéro 1.
Dream crusher, bleeding me dry like a goddamn vampire.
Les de la semaine. Samedi 14h à CJSO 101.7 au rythme de la région.
Tête première. Une présentation de Meubles André Beaudieu et de Développement économique Pierre de Sorel. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud. De retour à Tête Première avec Denis Marion.
Alors, je vous le disais avant la pause, semaine assez époustouflante cette semaine à Québec, qui, même si c'est pas de l'actualité régionale, nous touche aussi parce que on a beau être des citoyens de la région, on est aussi des citoyens du Québec et ce qui se passe là-bas nous touche bien sûr. Alors, quatre invités avec moi aujourd'hui. Très heureux de vous présenter d'abord Yves Bérard, qui est un entrepreneur que plusieurs connaissent aussi parce qu'il a siégé au conseil municipal de Sorel-Tracy au début des années 2000.
2005 Yves, c'est ça? À 2009.
Excellent. Bonjour et bienvenue, Yves.
Bonjour.
Alexandre Brouillard, je vous l'ai dit, journaliste au journal Les Deux Rives. Vous le lisez chaque semaine. Bonjour, Alexandre.
Bonjour.
Hélène Goulet. Que plusieurs vont reconnaître parce qu'elle a dirigé La Voix, parce que c'est une journaliste et une éditorialiste émérite dans la région. Bonjour Hélène.
Bonjour Denis.
Et Yann McClure, qui est un enseignant en histoire au Cégep de Sorel-Tracy. Bonjour Yann, très heureux de t'accueillir ici aujourd'hui.
Un plaisir d'être là tout le monde.
Puis je le dis, mais il paraîtrait que tu as été le prof d'Alexandre à un moment donné.
Oui, tout à fait, tout à fait. Fait qu'il a bien réussi, hein. Il s'est retrouvé journaliste. Puis comme les artisans des médias, il participe de façon très importante au maintien de la démocratie, je vous dirais. Fait que bravo aux artisans des médias notamment. Alexandre.
Aussi.
Bon, alors, ben, ça, vous, là, vous voyez avec qui on va passer l'heure. Je suis très content. Le sujet est intéressant et on a besoin de vous entendre, on a besoin de discuter ensemble. Je vous l'ai dit, le premier ministre est sur son nuage la semaine dernière à la suite de l'annonce de l'implantation de Northvolt à McMasterville. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on l'a su là, qu'il y avait cette usine-là. C'est évidemment extrêmement important. C'est la filière batterie. Ça complète une chaîne d'autres industries qui se sont établies, entre autres, à Bécancour. Et pour le premier ministre, c'est clairement quelque chose de majeur dans sa vision du développement industriel au Québec. Donc, il est très heureux du résultat. Et puis, tout à coup, il y a lundi une partielle dans le comté de Jean Talon. Et ce qu'on entend dans les médias, c'est que ça va être serré. Et ça va être serré pourquoi? Parce que dans les sondages, le Parti québécois dans la région de Québec obtiendrait plus de voix que ce qu'il avait obtenu lors des élections générales l'année précédente. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans les faits, c'est que l'écart entre le candidat du Parti québécois et celle de la CAQ est très grand. Le PQ a obtenu 44 % la CAQ 21 % et là, on voit que le premier ministre est vraiment touché par le résultat. Et le lendemain matin, il va sortir de son chapeau le fameux troisième lien. On va parler de tout ça, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Vous entendre sur votre perception de ce qui est arrivé. Dans un premier temps, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous faites partie des gens qui ont été surpris de l'écart entre la CAQ et le Parti québécois lors de la partielle à Québec dans Jean Talon? Là, je rappelle juste Jean Talon, pour ceux qui connaissent Québec un peu, Jean Talon, c'est la ville de Sillery, puis une partie de Sainte-Foy, l'ancien Sainte-Foy, là, tout ça maintenant, c'est dans la ville de Québec, bien sûr, avec la nouvelle ville de Québec. Et c'est un ancien comté très, 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 très libéral, des gens de ma génération peuvent connaître, Jean-Claude Rivet, Gilles Rémillard, Marguerite Delisle, qui ont siégé comme député de Jean Talon à ce moment-là. Même Philippe Couillard a été député de Jean Talon en 2007-2008. Donc, c'est un comté très libéral qui appartient à la CAQ depuis 2018. Vous réagissez comment, vous, samedi, quand vous voyez le résultat?
Moi, je pense que j'ai été le premier surpris. Bien honnêtement, je n'étais pas tant surpris de voir que le PQ a fait bonne figure et a remporté. Par contre, c'était vraiment l'écart de points là, qui m'a vraiment fasciné dans tout ça. Puis surtout qu'on savait que Jean Talon, certains pensaient que la CAQ était bien implantée depuis 2018, là, si ma mémoire
Exactement,
est bonne.
Exactement, les élections générales de 2018. Mm-hmm.
Puis surtout, ça faisait suite à, un peu plus tôt cette année, la partielle dans Camille Lorrain. Là, donc, deux de suite que la CAQ.
En fait, c'est la partielle dans Saint-Henri, Saint-Anne, à Montréal.
C'est ça. Ça faisait deux de suite. Là.
Je dirais que c'est un petit peu normal dans le cadre d'une élection partielle. Peut-être le résultat aurait été un peu différent dans une élection générale parce que l'enjeu n'est pas le même. Dans une élection partielle, ben, un petit peu historiquement, c'est que les gens se permettent, parce qu'il n'y a pas trop d'enjeux, par exemple, si le PQ a gagné, on le sait qu'il n'y aura pas de référendum à cause de cette élection-là. Donc, c'est un petit, une petite mise en garde des électeurs par rapport au gouvernement en place de la CAQ.
Et la CAQ garde ses 89 députés.
Exactement.
Là, sur
120,
sur 125, c'est beaucoup.
Ils ne sont pas en position minoritaire. Là.
Ouais, c'est ça.
Mais non. Je pense qu'au même titre que Paul Saint-Pierre Plamondon, je pense qu'un peu tout le monde a été surpris. Personne ne l'a vu de cette ampleur-là. Alors, même eux, dans le pointage, je pense qu'il n'y avait pas ce score-là. Là. Donc, il y a eu une grogne qui s'est manifestée. Puis, ils ont su canaliser, je pense, le vote d'opposition, qu'on pourrait dire, ou le vote de la grogne. Ils ont su canaliser ça au détriment de Québec solidaire, qui est dans une impasse, là, on le voit depuis peut-être 4-5 ans. Ça plafonne, ça bouge pas, ils ont beau clamer haut et fort que c'est eux, l'opposition, etc. Mais je pense que ça lève pas tant que ça et ils sont cantonnés quand même dans un... Ils se sont cantonnés dans une sphère. Alors, je pense que le PQ est dans... Puis, je vais juste allonger un petit peu, mais pour parler du PQ, parce que c'est quand même sa victoire.
On va y revenir après, okay. Si tu me permets.
Ouais, bon,
on va se rattacher.
Alors,
à ça. Il y a Yann
Encore là, c'est surprenant dans la mesure où, effectivement, parce qu'on l'a nommé, là, c'était un comté essentiellement qui était mené par les forces libérales jadis. Mais en même temps, c'est un coup de semonce, d'une certaine façon, de la part des électeurs. On s'entend là-dessus, je pense. On le voit très clairement. Maintenant, en plus... que c'est un parti souverainiste aussi. Oh là là! Alors, ça change la donne. Et puis, ça l'a envoyé un message clair. Oui. Il y a pas... il y a aussi peut-être quelque chose qui est tramé, dans le fond, là, entre Québec et Montréal aussi, tu sais. Fait qu'il y a un vieux fond de lutte. La CAQ se présentait comme une espèce de parti là, des régions, d'abord et avant tout. Mais est-ce que c'est vraiment les régions qui sont en avant-plan maintenant? La perte du troisième lien du côté de Québec, ça a eu un effet bœuf, mettons. Alors, ça donne à réfléchir.
Dans les résultats, il y en a un dont on a peut-être un petit peu moins parlé, mais qui est important, c'est qu'il y a quand même eu un taux de participation de 55 %.
Ouais.
C'est élevé pour une partielle un lundi d'octobre.
Ouais.
Un beau lundi d'octobre, là, on est d'accord, tout le monde, mais c'est quand même assez impressionnant parce que généralement, ça tourne tous plus autour de 35-40 la participation à une élection partielle. Donc ça, c'est important dans un premier temps. Puis là, je reviens, Yves, à ce que tu disais tout à l'heure. Une des surprises, je pense, c'est que depuis les deux dernières élections, l'opposition est fracturée entre quatre partis. Lors des élections de 2022, tout le monde a fait entre 13 et 20 % et bon, évidemment, la concentration à Montréal des députés plus anglophones dans l'ouest de l'île a permis au Parti libéral de conserver l'opposition officielle. Mais globalement, chacun des partis a à peu près le même pourcentage. Et là, pouf, on se ramasse avec un des partis qui va chercher beaucoup plus. Puis là, je reviens aussi à ce que disait Hélène tout à l'heure quand tu as dit « Le monde savait qu'il n'y aurait pas de référendum le lendemain s'il votait pour le PQ le lundi passé. » Là, il passe de 3 députés à 4. Là, hein? On ramène les affaires à leur juste perspective. Puis moi, ce qui m'est arrivé comme question tout de suite, c'est « OK, là, il est parti sur son air d'aller. » Là, c'était drôle. Là, les commentateurs se sont...
Enflammés.
Là, c'était à peine s'il ne prévoyait pas l'arrivée du PQ au pouvoir. Là. Mm-hmm. Bon, les prochaines élections sont dans 3 ans. Là, fait qu'on a le temps de voir venir. Là, on s'entend, on se calme. Mais quand même, là, le Saint-Pierre Plamondon est sur un air d'aller, semble-t-il. Est-ce que la question nationale, parce que lui, il ramène la question nationale, mais il l'a pas ramené pour l'élection partielle, OK? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que la question nationale va être une jambette pour son évolution dans les prochains mois? En fait, la question que je vous pose, c'est on n'est plus du tout dans l'époque où la question nationale divisait les Québécois entre souverainistes et fédéralistes. On est vraiment dans une autre époque. Ramener la question nationale, c'est quand même osé dans une certaine mesure. Là.
Deux choses dans ça. Bon an, mal an, l'appui à la souveraineté joue toujours autour de 30-35. Peu importe les résultats du PQ, puis j'en suis un bon exemple. Ceci dit, à la dernière élection, il y avait eu un sondage léger, pardon, qui
qui disait, en fait, si, bon, pour qui allez-vous voter à la prochaine élection? Puis vous hésitez entre qui et qui lorsque vous allez dans l'isoloir. Et le PQ était très, très fort comme deuxième choix. Et on l'a oublié un peu, ça. Mais cette partielle-là le confirme aussi à quelque part. Québec solidaire n'a jamais été dans le décor, n'a jamais été dans la course, malgré tous les efforts qu'ils ont faits puis le cafouillage qu'eux aussi ont eu dans le choix de leur candidat. Quand même pas banal, ça non plus. Et puis, donc, on voit que la question nationale...
Mais elle n'était pas à l'ordre du jour.
Elle n'était pas à l'ordre du jour, mais comme je le dis, bon an, mal an, dans tous les sondages, tu as une proportion au Québec de souverainistes que c'est plus ou moins à 35%. Et fait que donc, ça s'en va là. C'est encore ça.
Ben. Oui, est-ce que le PQ veut peut-être être appelé à un moment donné à prendre une espèce de place de plus en plus au centre? T'sais, Québec solidaire, du côté de Montréal, région... très urbaine, on s'entend là-dessus, camper assez sérieusement à gauche, du moins pour une partie de Québec solidaire.
Pas l'extrême,
là.
On peut dire.
Non, pas l'extrême, non. Quand même. Ouais,
je dirais qu'il y a des éléments, comme dans n'importe quel parti, qui vont aller un peu plus à gauche que les autres. Il n'en reste pas moins que, il faut oublier qu'Option nationale s'est joint aussi à QS. Alors, il y a des gens chez QS qui sont beaucoup moins campés à gauche, je dirais, que certains. Toutefois, la réalité est que le parti est quand même associé à une mouvance. Du côté de la CAQ, la CAQ m'apparaît remplacer un petit peu le Parti libéral en ce moment, surtout ouais. Avec y a une espèce de Québec Inc. en ce moment qui est vraiment mis en avant-plan. Est-ce qu'un PQ veut essayer de s'infiltrer ou occuper un espace éventuellement peut-être un peu plus au centre avec des propos mesurés? Paul Saint-Pierre Plamondon est mesuré dans ses propos également. Oui. Là. Il fait
bien, moi, je pense que depuis la pandémie, il y a comme une espèce de... rebalancement, c'est un mot qui existe.
Repositionnement
oui, par rapport à qui est qui. Un, Paul Saint-Pierre Plamondon a quand même surpris beaucoup de monde parce que je pense que les gens ne s'attendaient pas nécessairement à ses débuts à beaucoup et il fait très bien. Et ça tranche aussi avec un des anciens chefs du Parti québécois qui est Pierre Calpilado, donc c'est pas la même vision. Pendant la pandémie, François Legault et la CAQ ont très bien fait parce qu'il a fait son travail de bon père de famille, on va dire. Puis les gens, ça les rassurait. Maintenant, il est obligé de livrer une autre sorte de marchandise qui n'est plus la pandémie et qui n'est plus le père de famille qui va avoir une conférence de presse par jour. Là, il est obligé de rendre...
Qui va nous protéger.
Là, il est obligé de rendre des comptes et faire face à des enjeux de santé, d'éducation, logement, etc. Et c'est pas mal plus complexe que...
Et là, vous voyez que le débat est engagé. J'aime ça. On va quand même devoir prendre une petite pause. Et après la pause, on va poursuivre. On va poursuivre aussi avec la place du Parti libéral, entre autres, qui était à moins de 9 %. Puis je vais poser des questions par rapport au conservateur d'Éric Duhaime aussi.
Ah, okay.
Alors, on va revenir tout de suite après la pause. Restez avec nous.
Si je vous ai bien compris...
C'est bon, c'est fou, c'est pour vous.
Je suis content sur un nuage et je plane déjà. Ça se poursuit, oui, mes amis, à tous les vendredis.
On se prépare.
Oh, Seigneur.
Oreille gauche, oreille droite, testing.
One, two.
OK.
Bon, allons-y, qu'on en finisse au plus vite.
Le vendredi dès 15h30, c'est n'importe quoi.
Tu t'appelles comment?
Stage Lacroix.
Merci.
Et la radio, alors?
CJSO.
Le retour de Stage Lacroix.
C'est n'importe quoi.
Une présentation de location FGL et de meubles André Beaulieu.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, de chambres à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à chacun de vos besoins. Nos conseillers sont là pour vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Spécialisé en matière de mobilier de qualité, Meubles André Beaulieu s'impose de génération en génération depuis plus de 40 ans.
À l'automne, les feuilles changent de couleur et les couchers de soleil sont magnifiques. Pour ne pas manquer ces merveilles de mère nature, visitez iris.ca dès aujourd'hui pour prendre rendez-vous pour votre examen de la vue. De plus, jusqu'au 26 novembre, économisez 100 $ à l'achat d'une monture sélectionnée et de lentilles de prescription traitées anti-reflets. Iris, Vision d'exception, style remarquable. Dr. Jaël Saint-Jacques, optométriste.
Il y a plein de choses dont je veux vous parler dans Valérie l'après-midi. On parle bien sûr des artistes, de musique, on en écoute de l'excellent pour votre retour à la maison. On jase aussi de santé, de littérature et de vie au travail grâce à mes collaborateurs et on demeure bien informé avec Sylvain Rochon. Mon nom est Valérie Ferland, je vous attends du lundi au jeudi 15h30.
Tête première, une présentation de Meubles André Beaulieu et de Développement économique Pierre de Sorel. Parce qu'un débat, ce n'est pas une chicane, mais bien une façon de faire avancer les choses. De retour à Tête première avec Denis Marion.
Hey, vous auriez dû entendre tout ce qui s'est dit pendant la pause. Là. C'est, j'espère qu'on va poursuivre avec la même fougue. Écoutez, on va juste aborder vite. Il y a deux autres parties, évidemment. Là, on a parlé de Québec solidaire, on a parlé du PQ, on a parlé de la CAQ. Il y a le Parti libéral qui c'est quand même assez surprenant. Là. Rappelez-vous que dans notre comté, dans Richelieu, lors de l'élection, ils ont fait 4 % là, ils ont fait un peu moins de 9 % dans un comté qui était traditionnellement le leur. Il y a quand même, êtes-vous d'accord pour dire qu'il y a peut-être un message là aussi, compte tenu du fait que le Parti libéral n'a toujours pas de chef, ils n'arrivent pas à en avoir un, ça ne doit pas être facile à gérer, là, ça, être militant du Parti libéral.
Je pense que ça rapporte à tes propos tantôt, quand on parlait de se placer, tu sais, que tu disais, ah, QS sont beaucoup à gauche, extrême gauche, PQ se sont positionnés peut-être plus au centre.
Là, regardez Yves, là, actuellement, disant ça.
je crois que le Parti libéral doit se positionner actuellement sur le chéquier actuel de la politique sociale québécoise, mais oui.
Plus que nationale, plus que...
Moi, je pense que oui.
Le Parti libéral, il est dans un cul-de-sac actuellement, là, parce que ils sont pas... Le base électorale, actuellement, c'est la base anglophone et... issus de l'immigration, et ils sont pas capables de faire la quadrature du cercle. Et alors,
Jean Talon est une preuve de plus. Là.
C'est un gouvernement ce l'autre. Puis, la CAQ, on va se rappeler, c'est une coalition. Alors, t'as beaucoup de travailleurs d'élection qui proviennent des libéraux.
Et des péquistes, clairement.
Oui, tout à fait. Donc, il y a ça aussi dans le vacuum libéral là, qu'on assiste.
Juste avant d'aborder le troisième lien, parce qu'il faut qu'on se rende au mardi matin, là, on est encore au lundi soir avec la partielle, il faut qu'on se rende au mardi matin, parce que c'est là que ça a bougé sérieusement. Il y a aussi le Parti conservateur d'Éric Duhaime, il n'a fait que 6 %. Dans un contexte où, puis là, il faut faire le lien avec ce que le premier ministre va dire le lendemain, là, dans un contexte où le troisième lien, en guillemets, était plus à l'ordre du jour, parce que jusqu'à mardi matin, même la candidate caquiste avait dit ben, la décision de ne pas d'abandonner le projet est logique, etc., etc. Est-ce que ça va avoir un impact, cette question-là, sur le parti d'Éric Duhaime? Chez nous, la candidate avait quand même fait un bon résultat l'année passée. Là. Donc, c'est quand même un parti qui est en émergence. Là.
On aurait pu croire qu'il ramasse un peu plus de votes, M. Duhaime et son équipe là, du côté de Jean Talon. C'est un petit peu étonnant. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'ils ont trébuché à un moment donné? C'est quand même la région de Québec, puis ça vote quand même assez dans certains secteurs, ben, assez conservateurs.
Faut dire, excuse-moi, comme le candidat qui a présenté, Éric Duhaime lui-même ne s'est pas présenté, je le comprends aussi d'une certaine façon, mais le candidat était un peu, excusez l'expression, space.
Hein? okay.
Très bon, jeune, sans expérience, c'est
ben,
première
oui,
expérience de candidat.
Mais en plus, là, quand il a parlé du tramway de Nantes en France, puis là, il y avait un bruit de fond de supposément qui venait de ce tramway-là, moi, pour avoir... été dans quelques capitales françaises, le tramway, ça ne fait pas du bruit comme ça. Donc, c'était déjà dans le mode fake news. Là.
Ouais. Écoutez, il faut y aller au mardi matin, là, il faut, parce que le premier ministre a fait trembler le Québec au complet en sortant de son chapeau. Quelque chose que personne n'avait vu venir, là, à moins que vous me disiez...
Y compris ses députés.
Exactement, ses députés et ses ministres, effectivement.
Ils trébuchent, là. Ils trébuchent pour vraiment la première fois.
Comment vous l'analysez, ce qui est arrivé mardi matin? Qu'est-ce qui a justifié, d'après vous, la décision du premier ministre? Puis comment tout le monde réagit depuis? Puis moi, je vais vous demander à un moment donné comment... autour de vous, dans le comté, ici, chez nous, comment vous, vous voyez que
je pense que le premier ministre réagit véritablement comme une personne qui vit un premier véritable échec. Donc, les gens, ben, il a réagi émotivement par la suite. Oui. Ça, on le voit chez n'importe quel humain. Là, on trébuche, on se plante, ça fait mal, on réagit fort. Et là, très rapidement, il a voulu transcender un peu là, son état de choc. Il a proposé quelque chose, là... out of the blue, excusez-moi l'expression anglaise, là. Puis il a ramené immédiatement le troisième lien, tu sais, peut-être par une certaine forme de peur de perdre son électorat, fait qu'il réagit mal d'une certaine façon. Donc voilà, moi c'est une réaction d'abord et avant tout qui est émotive, je dirais.
Et qui est surprenante aussi parce qu'elle est très solitaire, non pas solidaire, mais bien elle est très solitaire. On a l'impression que le premier ministre l'a pris tout seul, cette décision-là. Hein?
Ouais. Mais... C'est venu avec la seconde gifle aussi, quand les ministres sortent, tu sais, ce qui n'était pas au courant.
Mm-hmm. Ouais, oui, mais la plus belle réaction, moi, c'était Fitzgibbon, que j'ai trouvé admirable. Il dit, je vais laisser le premier ministre commenter son dossier. Et puis, au revoir.
Je touche pas à ça.
Ben, écoute, moi, je l'ai trouvé solide là-dessus, Fitzgibbon, en fait.
La question du troisième lien a fait deux élections complètes, là, 2018-2022.
Oh là là.
Mais ça a été abandonné. Moi, il y a un élément. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas quelque chose qui a fait l'objet de beaucoup de débats chez nous. La question du troisième lien. La campagne électorale de 2022 aurait très bien pu être une occasion pour les candidats locaux de dénoncer le projet de 10 milliards de tunnels entre Lévis et Québec, mais ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Est-ce que vous avez l'impression que ce qu'on vient de vivre, c'est-à-dire le premier ministre qui se lance tout seul sur la glace avec un projet qui est supposé être mort, en le ressuscitant à l'occasion d'une déclaration, c'est même pas une conférence de presse, là, c'est une déclaration aux médias, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact ici sur la façon dont on va avoir confiance dans François Legault?
Bien, je dirais que ça va confirmer que la plupart des autres régions, sauf Québec, n'est pas nécessairement en faveur de ce troisième lien-là. C'est pas un enjeu pour nous, dans le sens que ça, comme pas que ça nous concerne pas, mais on le sait que les gens, c'est les choses qui sont proches d'eux qui les intéressent. Santé, l'éducation, comme on disait tantôt.
Et, moi, je pense que l'impact va se faire sentir, non pas sur est-ce qu'on est pour ou contre le troisième lien, mais l'impact va se faire sentir beaucoup plus au niveau de est-ce qu'on peut faire confiance?
La crédibilité.
C'est beaucoup plus sous cet angle-là que le débat risque de se faire sentir dans les autres comtés qui ne sont pas nécessairement impliqués directement ou indirectement avec le troisième lien, là, qu'il n'y a pas de nécessairement d'impact chez nous, qu'il y ait un troisième lien à Québec ou pas, mais l'impact va se faire sentir sur ton homme en haut, je vote-tu pour lui ou ben non?
Est-ce que la CAQ est encore un véhicule pour les régions? C'est ça aussi peut-être qui va se poser auprès des électeurs.
Je pense qu'elle peut l'être, mais c'est beaucoup plus au niveau de la confiance. Mm. Mais pour les régions, sinon c'est qui tire ces régions un peu? Les libéraux, je pense pas.
Non.
QS, je pense pas.
Non, mais il me semble que le Parti québécois a l'air d'être... commence tranquillement à être représenté du nord au sud, je dirais.
Oui. Avez-vous remarqué que le premier ministre réagit avec le troisième lien mardi matin, alors que le Parti québécois vient de gagner la circonscription la veille avec 44% en disant que, de toute façon, ils ont toujours été contre le troisième lien? Alors, c'est quand même intéressant de voir qu'il revient sur un projet... alors que c'est un parti qui a toujours pris ses distances de ce projet-là qui est élu la veille. Donc, c'est difficile de penser que les gens ont voté pour le PQ à cause du troisième lien. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mm. C'est comme si... Il sort quelque chose de complètement différent.
Est-ce que le PQ était tant contre le troisième lien que... en fait, je fais un parallèle avec, à l'époque, localement... Le PQ disait, pour le troisième lien, on connaît pas c'est quoi le troisième lien, en fin de compte. Il y a eu tellement de versions. Puis ça me fait penser, je fais une petite parenthèse pour localement, quand les gens à l'époque m'abordaient puis me disaient, t'en penses quoi, etc. Bien, j'en pense rien, je ne connais pas le projet, on ne l'a jamais connu, finalement, ou pas tant que ça. Donc, je fais un peu un parallèle avec ça. de... En fin de compte, c'est difficile de se prononcer quand le projet est flou et que tu... il est pas... Il est
mal attaché.
C'est mal attaché. C'est
je
mal
pensais
attaché.
Que c'est le pont qui aurait été évoqué là et non pas cet atterrant, mais bon...
le pont Sorel Berthier, ça, ouais, c'est un autre débat. On fera une émission là-dessus une autre fois.
Ouais, ça pourrait être
une autre fois. Ouais.
Oui, ça aurait pu.
La question de la déception, là. Le feeling que j'ai, c'est qu'à Québec, la distance que la population prend vis-à-vis de la CAQ vient de deux aspects. Il y a ceux qui croyaient au projet et qui sont déçus parce qu'il est abandonné. Puis, il y a ceux qui sont déçus et peut-être un peu choqués d'avoir eu l'impression de s'être fait jouer pendant deux élections. Puis que, d'où l'enjeu de la crédibilité actuelle, là. Parce que là, ça fait pas mal de flip-flop là, par le premier ministre. Est-ce que vous avez cette impression-là aussi?
Mm-hmm. Comment justifier que, dans le fond, le premier ministre dit... Je m'excuse, Hélène, je te laisse. Mais, en fait, le premier ministre dit « on va consulter ». Oui, mais il y a eu deux élections. Et tu veux consulter combien de fois? Alors, moi, bon, je suis là, tu sais.
Oui, mais je reviens à la crédibilité dont parlait Yves. C'est ça. Bon, il avait promis qu'on referait... la question des élections, le mode opératoire,
le mode de scrutin
oui. Et après, bon, il a abandonné ça. C'est comme toujours des promesses puis des reculs, des promesses, des reculs. À Québec, j'ai l'impression qu'ils sont comme un genre de yo-yo. Puis c'est probablement une des raisons pour lesquelles
Il n'y a pas de ces députés qui s'étaient commis aussi, s'il n'y avait pas de troisième lien, qui démissionnerait.
Oui, aussi, oui.
C'est pas Kerr.
Éric Kerr.
Il est encore en poste, alors. Mm-hmm. Donc, ça rayonne aussi ces députés. C'est pas juste l'affaire d'un premier ministre aussi. Donc, oui,
c'est une élection québécoise dans le sens de Québec aussi. Il faut tenir compte, Québec, c'est aussi un endroit qui a ses propres médias, qui a ses propres paroles. C'est un écosystème en soi. On s'entend, puis c'est une élection qui se déroulait à Québec, dans une circonscription au cœur de la ville de Québec. Là, c'est en Haute-Ville, là, c'est Sillery que je disais, puis Sainte-Foy.
Mais si je peux me permettre, Denis, ce que j'ai beaucoup entendu, moi, de mon côté, jaser avec des gens de ma génération, surtout, ce qui est revenu, c'est pas l'aspect
c'est
de sortir...
C'est le plus jeune
avec,
autour de la table, vous avez compris. Là.
De sortir avec l'idée du troisième lien le lendemain, en moment de panique, mais plutôt le fait que peut-être qu'il aurait dû plus écouter, s'asseoir avec son équipe, et dire pourquoi... La défaite est aussi cuisante, puis pourquoi le PQ a fait autant? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux actuellement là, ailleurs que le troisième lien, puis ailleurs que dans la capitale.
Et c'est intéressant parce que là, je veux vraiment revenir sur la question de la confiance. Parmi les commentaires que j'ai beaucoup entendus depuis que c'est arrivé mardi matin, puis je vous souligne qu'on est juste jeudi midi, là, hein? Fait que ça fait pas trois semaines de ça, là, ça fait 48 heures. OK? Ce que j'ai beaucoup entendu, c'est « Mais où était son équipe à M. Legault pour lui dire « Hey, attends un peu, soyez prudent, M. le Premier ministre. » On a l'impression que l'entourage...
Mais j'ai l'impression que Marine Desault dans sa tête tout seul, vraiment. Là,
mais ce bout-là n'est pas aussi quelque chose qui est un petit peu inquiétant, peut-être, de constater?
Oui, absolument.
Est-ce qu'on peut penser qu'il y a à l'intérieur de la CAQ des visions différentes et certains se magasinent peut-être...
C'est une coalition.
Mm-hmm. Donc, tu sais, l'équipe de... L'entourage de Fitzgibbon, il est où par rapport à M. Legault en ce moment aussi, en même temps?
Oui, tout à fait. Puis là, j'imagine qu'il y a toutes sortes de questions qui se posent parce que, tu sais, la politique au Québec, c'est un peu fou, là. Tu sais, en l'espace d'une semaine, on a changé complètement d'univers, là. Mm-hmm. OK? Fait que la semaine prochaine, il peut arriver d'autres choses aussi, puis on peut être complètement ailleurs. Fait qu'imaginez trois ans.
C'est ça.
Mais n'empêche que dans le milieu politique, là, on a quelques-uns ici là, qui avons fréquenté le milieu politique, c'est quand même des choses qui sont qui bougent beaucoup. Écoutez, on poursuit cette conversation-là de l'autre côté de la pause. Restez avec nous.
C'est l'anniversaire d'un de vos proches. Les matins de semaine à 7h10, CJSO souligne ses événements tout spéciaux. Pour inscription, rendez-vous dans la section « C'est ta fête » du CJSO.ca. Un élu chaque mois gagnera de beaux cadeaux.
C'est ta fête! Lisette, une présentation d'Azimut Diffusion, du Cinéma Saint-Laurent, de William G. Waters, saucissier, du Bistrot de Retraiteur, du comptoir d'Alexandrine, biscuiterie, pâtisserie française et de la pharmacie Jean Coutu Tracy. C'est la fête des récoltes à Saint-Aimé-et-Massuville. Pour cette 19e édition, on vous propose toujours des produits frais et savoureux provenant de plus d'une quarantaine de producteurs locaux et régionaux. Plusieurs nouveautés. Rencontrez ces gens passionnés, goûtez à leurs produits et obtenez de nouvelles recettes. Découvrez ce qui se fait chez nous et profitez-en pour vos réserves hivernales. Venez vivre l'ambiance d'un marché agroalimentaire aux allures d'antan. On vous attend à la fête des récoltes de Saint-Aimé-Massuville le dimanche 8 octobre, beau temps, mauvais temps, dans le parc du Carré Royal, au centre du village de Massuville.
Yacht, c'est matin.
C'est JSO. Salut, c'est Alex. Je vous attends pour la dernière de la semaine demain avec Zaz, l'artiste de la francophonie la plus populaire du moment. Aussi, Maxime Trouman et sa chronique dans les coulisses et l'art désorganisé entre 8 et 9. Qu'est-ce qu'on boit avec David Dion et quiz musical à saveur d'automne?
Yacht, c'est matin. Une présentation de Meubles RD et du bistrot Audrey Traiteur.
Derrière-le-volant.net. Passez une heure dans le monde automobile avec Jacques Deshaies et ses collaborateurs. Derrière-le-volant.net. Cliquez « J'aime » sur Facebook.
Chaque semaine, l'émission Derrière le volant vous présente de l'actualité automobile, des essais routiers, des conseils pratiques. On parle de salon automobile et surtout de nouveautés. Soyez là.
Derrière le volant avec Jacques Deshaies, tous les dimanches, 18h à CJSO 101.7.
Tête première. Une présentation de Meubles André Beaulieu et de Développement économique Pierre de Sorel. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud, de retour à Tête première avec Denis Larion.
Et je vous jure qu'on devrait mettre en onde les pauses parce que ça vous savez, à ce moment-là, ils ne se sentent pas obligés de parler un à la fois. Ils parlent tout le monde en même temps. C'est, je trouve ça intéressant. Ça veut dire que ça
vous intéresse. On peut faire la même chose en onde.
C'est correct. C'est correct. Je vous représente les invités parce que je vous l'ai pas redit, là, je suis avec Yves Bérard, qui est un entrepreneur, un ancien élu municipal à Sorel-Tracy, Alexandre Brouillard, qui est journaliste aux Deux-Rives, Hélène Goulet, qui est une ancienne journaliste à la retraite aujourd'hui, et Yann McClure, qui est un enseignant d'histoire au cégep de Sorel-Tracy. Écoutez, j'ai envie de repartir de ce que vous étiez en train de dire pendant la pause, puis je vais expliquer à nos auditeurs où on en était. C'est qu'on se disait, ça fait un peu bizarre de parler de troisième lien quand on a l'impression que les préoccupations des gens sont complètement ailleurs. D'après vous, là, si on dit crise du logement, inflation, augmentation du coût de la vie,
itinérance
effectivement, est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose cette semaine? Est-ce que le premier ministre est passé à côté de préoccupations qui dont la population peut se sentir qu'il est éloigné de ses préoccupations-là.
Bien honnêtement, je pense que M. Legault a passé à côté d'une belle occasion de faire un petit mea culpa, puis de parler aux Québécois des choses qui nous préoccupent vraiment. Moi, ma première gorgée de café a passé de travers là, quand j'ai entendu parler du troisième lien. Je pensais que c'était dans les oubliettes. Là. J'ai beaucoup d'autres trucs, je pense, qui préoccupent autant les jeunes de notre circonscription que les Québécois en général.
Puis il y a des dossiers qui sont comme actuels. Par exemple, la semaine passée, tu faisais allusion à Nordvolt. Il y a beaucoup d'investissements, je pense que c'est 7 milliards. Et alors qu'on rentre en négociation avec les employés de l'État, puis même s'ils ont été des anges durant la pandémie, tu n'acceptes pas d'augmenter la machine pour pouvoir, il y a beaucoup d'insatisfaction de ce côté-là. On ne parlera pas des temps supplémentaires obligatoires. Il y a un tas de choses, les professeurs, les ratios, etc.
Je suis obligé d'être d'accord ici.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est les problèmes actuels auxquels font face tous les jours les gens. Puis ça, il a parlé d'un troisième lien hypothétique. T'sais, bon, est-ce que ça va être un pont, un tunnel, une barge? On ne sait pas.
De là, c'est tenir les pieds dans les plats. Je reviens à ça. Il y a quand même une erreur. Là. Donc, puis, son équipe n'a pas l'air de vouloir l'accompagner dans cette erreur-là aussi. Là. Donc, ils s'en vont de leur côté.
Ou il ne veut pas être accompagné.
Ou il veut pas. Il prend sa responsabilité. Ou, tu sais, je m'occupe de ça. Puis, ben, les feux sont nourris vers moi. Puis, après ça, tu sais, le bon père de famille, on y revient. Là,
mais c'est intéressant, Yann. Est-ce que tu es en train de dire qu'il y aurait peut-être une distance, un fossé qui s'est créé entre M. Legault puis son monde, l'entourage proche
dans
les ministres et députés?
Dans n'importe quel parti, il va y avoir différentes factions. Puis, dépendamment des époques ou des temps ou des crises, ben, les gens se positionnent un petit peu plus de certaines façons, je dirais. Puis, vous l'avez mentionné vous-même autour de la table, c'est une coalition, encore la CAQ, on répète. Là. Enfin, donc, à ce moment-ci, il y a peut-être une coalition qui est beaucoup plus intéressée à s'occuper du Québec Inc. Okay? Celle peut-être qui provenait du Parti libéral en amont, là, je dirais.
Ben, en fait, puis là, on peut cibler le ministre Fitzgibbon là, comme étant un des principaux porte-parole de cette vision-là.
Pis, qui rayonne beaucoup en ce moment, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Mais je reviens à ce que je disais en début d'émission la semaine dernière avec l'annonce de Nordvolt, le premier ministre, il volait haut, là. Il était sur son nuage.
On appelle ça un high.
Exactement là où il nous dit qu'il veut aller depuis le début, c'est-à-dire des investissements majeurs dans des aspects économiques innovants, avec des emplois bien payés. Il nous a toujours dit et répété qu'il souhaitait que le Québec soit aussi productif, mais aussi que ce soit rentable pour les Québécois. Ben,
mais c'est ça, si les...
ça fait partie du plan de transition énergétique. Je m'excuse encore une fois, Hélène. Vas-y.
J'ai perdu mon idée.
Ah, désolé. Mais donc, tu sais, on peut se réjouir quand même de ça, parce que c'est un jalon important dans un repositionnement d'une conversion énergétique. Donc, on crachera pas dans la soupe, là, quand même.
Mais est-ce que...
On ne peut pas être contre, comme il dit, mais en même temps, l'objectif du premier ministre, c'est de rejoindre le PIB de l'Ontario. Est-ce que c'est un objectif qui a de l'allure? Tu sais, je veux dire, je comprends qu'on veut améliorer notre économie, mais avoir ça comme objectif, ça serait pas plutôt que les gens qui vivent au Québec soient bien et qu'ils aient les services auxquels ils ont droit.
Tout à fait. Est-ce que... oui, Alexandre? Non.
je suis d'accord avec Hélène.
Avec Hélène. Ben, en fait, ce que je me disais, c'est que quelque part, lorsqu'on a des gros projets comme ceux-là, OK, puis on a fait de la politique, Yves, là, quand on a des gros projets, c'est important d'associer la population à l'évolution du projet en question. Le sentiment, je ne sais pas si vous le partagez, vous me le dites, le sentiment qu'on a dans une certaine mesure, c'est que dans la filière batterie, c'est vu tellement par M. Legault comme une victoire importante de l'économie québécoise, un peu ce que disait Yves il y a quelques secondes, OK? Mais en même temps, c'est comme s'il n'avait pas accompagné le Québec pour comprendre ces enjeux-là, puis être d'accord avec lui sur le fait de mettre ça en priorité quand, et là je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, quand dans le quotidien, les Québécois actuellement trouvent ça dur. Là. On entendait encore des reportages sur l'impact de l'augmentation des taux d'intérêt sur les hypothèques des gens. Ça, c'est très concret là, comme situation. Est-ce que le premier ministre n'est pas tout seul actuellement dans sa vision de développement économique, puis qu'il n'a pas réussi? Puis ça ne veut pas dire qu'il a tort là, en proposant ce qu'il propose, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure. Mais est-ce que peut-être qu'il n'a pas réussi à s'assurer que les gens soient avec lui dans ce positionnement?
Bien, une des forces de certains premiers ministres, que ce soit René Lévesque ou même Robert Bourassa, c'est justement qu'il soit accompagné dans son projet, que ce soit Hydro-Québec, tout ça, des barrages, qu'il soit accompagné par l'ensemble de la population, qu'on se sente fier de pouvoir aller plus loin
Et qu'on comprend ce qu'ils essaient de faire.
Alors, ça, peut-être M. Legault a comme un petit peu plus de difficultés à le faire parce qu'il est habitué à travailler seul. C'est lui qui choisit les candidats, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui décide ça. Alors, il y a un problème.
Yves?
Bien, moi, je pense pas qu'il travaille ça seul. Je pense qu'il y a une bonne équipe. Puis, Fitzgibbon, tu sais, il y a le message et le messager, des fois, avec Fitzgibbon. Puis je pense qu'il est victime un petit peu de son, de son image ou même de ses comportements, parce que des fois, il peut être un peu hautain. Mm. Et ça l'a rattrapé à plusieurs reprises. Mais au-delà de ça, n'importe qui aurait véhiculé le message que Fitzgibbon véhicule dans « il faut consommer l'électricité d'une façon intelligente, puis que c'est précieux, puis que peut-être qu'on prend ça pour acquis, puis qu'on en dépense peut-être plus qu'on devrait, puis tout ça. » Si ça avait été n'importe qui d'autre que lui, je pense que le message aurait été bien accepté. Alors, t'as le message, t'as le messager. Ceci dit, je pense que on a tendance un peu, des fois, à regarder en arrière puis à auréoler un peu, exemple, quand on a décidé d'aller de l'avant avec les barrages, c'était très contesté. Oui. Il y avait un risque financier énorme et c'était très contesté. Puis Bourassa, c'était associé à une promesse de créer les
125 000 jobs.
Et donc, je ne suis pas certain que ça s'accompagnait. Il y avait c'était accompagné d'une vision de développement économique, c'est clair, c'est certain. Mais tu peux pas, à un moment donné, tu sais, en même temps, quand tu as un poste d'élu, bien, c'est un poste décisionnel à un moment donné aussi. Puis, tu l'assumes, puis tu t'en vas avec ça, puis bien, il y a des élections 4 ans, puis ça fait pas, bien, il m'en mettrait un autre.
On a abordé tout à l'heure le fait qu'évidemment, on n'est plus, puis il reste pas beaucoup de temps, malheureusement, là, mais ça sera déjà un sujet éventuellement d'échange de plus, là, mais... La CAQ est quelque chose d'assez exceptionnel dans l'histoire du Québec, là, dans le sens où cette coalition-là, il y a rarement eu des coalitions qui ont réuni des fédéralistes et des souverainistes. C'est-à-dire qu'on a changé complètement le paradigme, là, la façon de s'identifier à un parti. François Legault a pas mal réussi à j'ai un de mes amis qui est un ancien du Parti québécois qui est au gouvernement actuellement et qui me disait, Denis, ce gouvernement-là n'est pas un gouvernement péquiste, mais c'est un gouvernement de péquistes. Parce qu'il y a beaucoup de gens du Parti québécois, puis j'ai un autre de mes amis qui est libéral qui est capable de dire exactement la même chose, parce qu'il y a aussi des gens qui sont issus du Parti libéral là. Est-ce que si la CAQ bouge un peu dans les sondages, parce que la semaine passée, il passait de 42 à 34, OK? Est-ce que quel genre de comment je pourrais dire ça, quel genre d'avenir
est-ce que la colle va tenir?
Oui, exactement.
Ben oui, c'est certain, c'est le propre des coalitions, hein. Quand tu gagnes, c'est toujours facile d'être dans l'équipe. Quand c'est moins winner un peu, ben là tu commences à voir les long wolves, là, les loups solitaires, puis les gens qui veulent se positionner autrement, puis ça.
Donc, on le voit du côté de Trudeau en ce moment, où Chrystia Freeland a l'air à prendre ses distances du premier ministre.
Je la comprends. Mais ça, c'est une autre émission, mais oui, je la comprends.
Tout à fait, tout à fait. Eux, ils ont dû regarder un peu là, ce qui se passait du côté de Jean Talon, d'une certaine façon. Est-ce qu'ils voient un peu ce qui se passe dans Jean Talon, puis ils craignent un peu de leur côté. Hein. Mais pour ce qui est de la question nationale, c'est un débat. Est-ce que les jeunes, maintenant, ils sont là? Est-ce qu'ils sont pas là aussi en même temps? Est-ce que ça fait vibrer encore du monde? Moi, je pense que aussitôt qu'on a une crise constitutionnelle à quelque part, ça va revenir. T'sais.
À cause de l'identité québécoise qui est forte.
Oui, elle est là. Et puis là, il y a tout l'enjeu aussi du déclin du français qui vient peser aussi. Et puis éventuellement, ça va ressurgir quelque part. Mais c'est les luttes nationales d'origine, c'est des luttes qui sont relativement longues dans le temps.
Je suis arrivé au monde en politique, là, je veux dire, quelque part à la fin des années 70. Le premier ministre s'appelait René Lévesque.
Ouais,
Tu sais, il y avait un référendum en 1980. J'ai traversé les années 80, 90. Mm-hmm. Puis Hélène... Est-ce que c'est vrai qu'on a l'impression de ne pas se retrouver trop dans le temps des gens qui avons vécu ces années-là puis qui avons été très intensément pris? Parce que faut jamais oublier que 5% de la population du Québec était membre d'un parti politique en 1980. C'est énorme, là. On n'a pas ça aujourd'hui, là, des partis politiques avec autant de monde, autant d'implications. Est-ce que l'univers a changé, là, très sérieusement?
Ah, c'est sûr. Puis... pas nécessairement seulement en termes de militance politique ou même militance syndicale, qui, c'est très différent aujourd'hui. Mm-hmm. Mais disons que aujourd'hui, au 21e siècle, c'est les réseaux sociaux qui en parle dans tout ça, et ça change les paradigmes. Mais je vais laisser...
Ben oui, écoutez, terminer. On arrive aux dernières secondes de l'émission. Moi, je ne sais pas pour vous, moi j'en aurais pris 15 minutes de plus, là, mais c'est pas mal de même à toutes les semaines. Vous voyez un peu quel genre d'émission qu'on mène. Écoutez, ici Denis Marion, je suis votre animateur et je suis très heureux de l'être. Merci à Jeff Paquet pour la mise en onde. Je vous souhaite à tous et à mes invités en particulier une excellente fin de journée. Merci d'avoir été là, vous quatre, pour ce débat-là. À bientôt!